patria, patriarca, 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 patriarca.
Le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste.
Butch, 'cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille en masculin. Un garçon en
l'émission pour
déranger
une émission féministe
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30
bonsoir.
Féminisme pur.
Bonsoir, vous êtes sur Radio Kaleidoscope 97 FM. C'est l'émission Dégenrée, l'émission pour déranger. Et ce soir, nous vous proposons de partager tout ce qu'on ne nous dit pas et qu'on n'imagine pas sur le bonheur d'être enceinte, la joie d'accoucher et l'épanouissement postpartum.
Alors, ça pourrait vous paraître bizarre, une émission féministe sur la maternité et sur l'accouchement, mais... voilà, on s'est dit que ben, nous, en tant que féministes, on lutte pour le droit de choisir. Ça veut dire le droit d'avorter et de ne pas faire de famille, puisqu'on sait bien que l'oppression des femmes, elle se fait essentiellement, enfin, entre autres, dans la famille. Mais on s'est dit aussi que voilà, le droit de choisir, ça veut aussi dire le droit de choisir d'avoir des enfants. Et que même quand on est féministe, parfois on choisit d'avoir des enfants. Et comme c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, on s'est dit, alors ben, pourquoi pas en parler ce soir.
Donc pour cette émission, on a interviewé des femmes qui ont vécu la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Et du coup, on va vous proposer des témoignages sur le sujet. Notamment commencer par un petit témoignage sur l'idée d'être enceinte, pourquoi on décide à un moment d'avoir des enfants et du coup d'être enceinte, d'en passer par cette phase-là, et tout le passage à la grossesse avant l'accouchement. Donc on vous laisse écouter ce petit témoignage.
On a mis du temps à y arriver, donc c'était tout à fait voulu. La grossesse très très bien, aucune nausée, rien, tout parfaitement bien jusqu'à la fin.
Alors, je voulais pas être enceinte depuis que j'étais née et depuis que j'avais 18 ans, c'était pas ma vocation de devenir mère. Même je voulais pas tellement être enceinte, ça m'intéressait pas tellement. Non, c'était plus une rencontre. C'était un truc réfléchi à partir du moment où j'ai rencontré mon amoureux. Mais avant, j'avais pas tellement envisagé que je serais enceinte un jour, je pense. Alors la grossesse, ça s'est passé bien. J'avais un peu l'impression que j'avais un alien dans mon ventre quand même. Je me sentais pas comme si j'avais une horrible maladie. Après, j'avais beaucoup de mal à m'attacher à cet embryon avec lequel j'étais censée être en osmose et aimer déjà quand il était dans mon ventre. Moi, je trouvais ça très bizarre d'avoir quelqu'un d'autre dans mon ventre. Donc j'en parlais à la troisième personne. J'avais pas beaucoup d'affection pour cet embryon. Je trouvais ça très curieux, très étrange, toutes ces nouvelles sensations, voir mon corps se transformer. J'ai l'impression d'être dans un film un peu de science-fiction. C'était bien parce que je pense que j'avais beaucoup d'hormones qui me montaient au cerveau et qui faisaient que j'étais contente et que je trouvais que tout était cool. Je pétais le feu, j'avais vachement d'énergie. Je me faisais une montagne d'avoir envie de vomir toute la journée et que j'ai pas eu de nausée. Après, moi, j'ai pas trop lu de bouquins, j'avais pas trop envie de savoir tout ce que toutes les autres femmes en pensaient et tout ce qu'il allait se produire dans mon corps. Enfin, j'aimais bien me faire confiance et vivre mon truc tranquillement sans écouter l'avis de tout le monde. C'est un moment de ma vie dont je me souviens avec plaisir où j'étais bien.
Nayan, il s'est invité, c'était pas un enfant qui était prévu. Et ça a été déjà un gros questionnement à ce moment-là avec le papa, de savoir si on se lançait ou pas dans cette aventure. On a effectivement décidé de le garder. Moi, j'étais assez claire au départ que je le gardais pas toute seule, que pour moi, un enfant, ça avait aussi un papa. Et à partir de ce moment-là, donc je suis partie sur la grossesse. Elle s'est super bien passée, ça a été une période où j'étais hyper épanouie, hyper bien avec moi-même et ouais, ça a été une période où vraiment j'étais bien, alors que c'est souvent une période qu'on te décrit comme difficile.
Moi, ça faisait un moment que j'avais envie d'être parent, mais je me heurtais vraiment à la difficulté d'accéder concrètement à la parentalité sans passer par une grossesse. Et assez rapidement, c'est vrai que j'ai fait le deuil de faire le tour de ces possibilités, parce qu'assez vite, j'ai compris que vu mes choix de vie, vu ma vision du couple et mes envies de parentalité, ça ne correspondait pas du tout à des critères qui m'auraient permis, par exemple, d'adopter. Parce que si tu veux pas te marier, ni vivre en couple, ni avoir un travail salarié à temps plein, ben voilà, c'est exclu que tu puisses adopter, quoi. Donc ça a été évacué assez vite et du coup je me suis lancée et on s'est lancé dans imaginer une parentalité différente, tout en se réappropriant un imaginaire un peu positif de la grossesse et de la conception d'enfants, quoi. Et ça a pris du temps, pas mal de temps, mais c'était plutôt une belle aventure, quoi. La grossesse, de toute façon, je m'attendais pas à ce que ça soit une partie de plaisir, et il s'est révélé que c'était le cas. Contrairement au post-accouchement, ça n'a pas été que compliqué et douloureux. Il y a eu plein de choses compliquées et douloureuses, mais il y a eu aussi des choses qui m'ont surprise plutôt agréablement, des sensations ou des expériences plutôt passionnantes à des moments. Et je l'ai vraiment pris comme ça, en fait, la grossesse. Pour moi, une fois que c'était parti, j'avais décidé de le prendre comme ça, c'est-à-dire de le prendre comme une expérience qui allait amener son lot de doutes, d'angoisses, de joie, de surprises, et voilà, et ça a été le cas, globalement. J'ai jamais réussi à intégrer ça pendant la grossesse, que c'était un individu ou un mon bébé ou je sais pas quoi qui grandissait en moi. C'était hyper difficile et même les échographies m'ont pas aidé à ça. Et c'est assez étonnant, hein, parce que pourtant, je me souviens bien des images. Je voyais bien que la petite machine qui appuyait sur mon ventre projetait des images sur un écran qui ressemblait à une forme de bébé. Mais le lien, pour moi, il était super compliqué, quoi. Du coup, je pense que j'ai jamais vraiment réussi pendant la grossesse à le vivre comme ça. C'est-à-dire, tiens, là, il y a un bébé qui grandit en moi. Mais par contre, j'ai plus eu la sensation d'être habitée, ouais. D'être habitée et de pour un temps, partager ce corps avec quelqu'un d'autre. Ce qui est une idée un peu étrange, quand même. J'ai pas beaucoup insisté là-dessus. Enfin, disons que c'est un truc que j'ai un peu mis de côté, en fait, dans ma tête. Parce que je trouve pas ça très... Je sais pas, je trouvais ça pas très intéressant de m'attarder là-dessus, quoi. J'avais plus envie de m'attarder sur les sensations que ça me procurait ou l'imaginaire que je pouvais construire autour de la parentalité, mais le lien avec ce qui se passait biologiquement, je l'ai pas vraiment creusé, en fait, parce que c'est pas ça, en fait, qui m'accrochait pendant dans cette période.
Ah, que c'est bon d'être une bulle. Ah, que c'est beau d'être un ballon.
C'est ambigu, ta chanson. Tu pourrais aussi la chanter au mouvement Laissez-les vivre. Et à la limite, tu donnes mauvaise conscience aux femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants.
J'ai pas dit qu'il fallait avoir des enfants. J'ai dit que quand on est enceinte, il faut essayer de ressentir les choses soi-même et pas écouter l'État ou l'Église ou les allocations familiales. Moi, je veux exprimer ce que je ressens à travers des images de femmes et les dire et les chanter.
Ah, que c'est bon d'être un gros rêve. Que c'est beau d'être un ballon. Un arbre vert rempli de sel. Un pain qui lève.
Vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope 97 FM et c'est l'émission Dégenrée sur les joies de la grossesse. On vient d'entendre donc un montage avec plusieurs femmes qui expriment un peu ce pourquoi elles ont décidé d'aller au bout de cette aventure, parfois voulue, parfois le fruit du hasard, enfin un hasard un peu provoqué bien évidemment, mais pas toujours attendu à ce moment-là. Et quoi qu'il en soit, en fait, les grossesses, elles sont diverses et variées, comme les choix d'avoir ou non des enfants. Et on peut pas dire que y ait une bonne ou une mauvaise façon d'être enceinte, que ça va mieux se passer si on fait comme ci ou comme ça, parce qu'il y a trop de paramètres qui entrent en jeu. Et il y a des grossesses qui sont parfois à risque, qui sont parfois compliquées, mais il y a quand même une majorité de grossesses où il y a des désagréments, mais il y a aussi cette expérience un peu étrange dans notre corps, comme ça, où il se passe plein de choses. C'est assez progressif, c'est pas toujours douloureux, et comme on l'a pu l'entendre, et c'est ce que j'ai pu aussi vivre, c'est cette impression d'être habité, d'avoir un alien, ça bouge, ça fait plein de choses étranges dans son corps, et on maîtrise pas, et on n'est pas seul, en fait. sans être complètement dans un truc la nature, j'aime ce qui se passe et je sais déjà que cet individu, c'est mon enfant ou je sais pas quoi. C'est beaucoup trop abstrait, en fait, pour que ça se passe comme ça.
Bah, j'ai l'impression qu'en écoutant ces montages et cette chanson, on se rend bien compte qu'il y a vraiment des points de vue différents sur ce moment-là, et peut-être aussi sur l'état d'esprit qu'on a quand on l'aborde, et puis ce qui se passe vraiment aussi dans son corps, parce que chaque femme ne subit pas exactement les mêmes désagréments. Il y a quand même aussi des femmes qui supportent très mal la grossesse.
Oui, tout à fait. Bah, c'est pas rigolo, c'est vrai que on n'est pas si nombreuses que ça à pas avoir de nausées, par exemple. Et rien que ça, c'est se réveiller le matin et avoir la gueule de bois une bonne partie de la journée, c'est pas drôle. Et puis ça dure en plus pas une journée, ça dure des mois. Pareil, après ça, il y a aussi des choses dont on ne sait pas forcément, mais comme on a un gros ventre, que tous nos organes sont déplacés, on se retrouve avec un estomac qui remonte, et du coup, ben, quand on mange, on est vite rempli, et en fait, on a des remontées gastriques, c'est un peu désagréable. Donc même si ce n'est pas complètement inconfortable ou douloureux, en tout cas, il y a cette gêne, quoi. C'est pas, même quand ça se passe bien, il y a quand même des petites gênes comme ça qui font que ça nous rappelle que c'est pas simple. Et puis il y a aussi, en effet, on devient lourde, très lourde au fur et à mesure des mois, et c'est pas rien, en fait, de porter ça. C'est vrai que c'est pas forcément une maladie, ça peut l'être, parce que c'est vrai qu'il y a des grossesses qui sont vraiment compliquées, mais sans être une maladie, c'est quand même pas simple.
Et sur cette question de la grossesse, je trouve ça aussi assez intéressant de voir que toutes n'ont pas non plus la même vision de leur futur enfant, de est-ce que ce qui se passe là, c'est un futur enfant. Et j'ai l'impression aussi que quand même, malgré tout, on nous pousse à avoir cette vision-là. Quand on est enceinte, qu'on l'ait choisie ou pas, j'ai quand même l'impression que... dans les normes, c'est quand même bien vu de considérer que ce qu'on a dans son ventre, c'est un enfant. Et c'est peut-être pas facile aussi de se projeter là-dedans, en fait.
Non, c'est carrément pas facile, parce que, enfin, bon, s'il y a un père qui est présent, alors là, pour l'homme, c'est carrément impossible de se projeter là-dedans. Et pour la femme qui le vit à l'intérieur de son corps, eh ben, c'est pas aussi aisé. Moi, je me suis vue devoir d'expliquer à une sage-femme qui me disait « votre enfant », que moi, pour le moment, c'était pas mon enfant, quoi. J'en étais loin, c'était encore beaucoup trop abstrait. Et que du coup, je pouvais pas dire que ce qui se passait dans mon ventre, c'était mon enfant.
Et est-ce que cette sage-femme a compris ce que tu disais ? T'as comprise dans ce sentiment-là ? Pour elle...
Non, je suis pas sûre. Elle disait « Ah, mais il faut se mentaliser au truc, quoi. Faut se préparer à ça. » Mais moi, me préparer à ça, ça voulait pas dire que c'était maintenant. Avant ça, c'était... Il y a cette idée du bébé imaginaire, mais ce bébé imaginaire, c'est pas ce qui se passe dans ton ventre. C'est tu projettes ce que tu aimerais de l'enfant, nanana, même si tu sais que après, quand il est là, c'est tout autre chose et il disparaît. Mais ce qui se passe à l'intérieur de son corps, c'est, enfin, pour moi, ça l'était pas. Pour beaucoup de femmes, je pense que ça l'est pas, sauf qu'elles vont pas le dire, parce que c'est surtout biologique, en fait. C'est plein de choses qui se passent dans ton corps, mais il n'y a rien de matérialisé en forme d'enfant. Enfin, tu... Il n'y a pas de communication. Enfin, si, il y a une pseudo-communication avec des séances, par exemple, comme j'ai pu le faire, d'aptonomie, où du coup, tu peux faire bouger le fœtus et le replacer pour pouvoir être plus confortable, avoir moins mal au dos, et aussi pour pouvoir le placer au moment de l'accouchement en bonne position pour qu'il passe dans le bon canal. Mais c'est pas de l'ordre de quelque chose d'aussi concret qu'un enfant, quoi. C'est mais pas moi, l'individu, c'est quelque chose en devenir.
J'ai l'impression aussi que peut-être les femmes ne disent pas qu'elles sentent les choses comme ça, parce que quand même, pour le personnel médical, pour le papa peut-être des fois, et puis pour tout l'entourage, là, ce qui est en train de se faire, c'est un enfant. Et surtout pour le personnel médical, on a quand même l'impression que à ce moment-là, la femme enceinte, c'est un peu la machine qui produit un enfant, en fait.
Ouais, ça me rappelle le premier épisode, en fait, où j'ai appris que j'étais enceinte, et pour le coup, j'avais pas prémédité ça, et je pensais que c'était pas possible, et que du coup, je devais être en train, enfin, même si tout indiquait que j'étais enceinte, je devais être en train de faire une fausse couche, parce que ça me paraissait pas possible dans mon corps que ça se passe. Donc, la médecin m'a envoyé faire une échographie tout de suite, parce qu'apparemment, c'était déjà bien avancé. J'étais déjà à 3 mois et je m'en étais pas aperçue. Et quand j'arrive pour faire l'échographie, c'était un homme qui donc fait son échographie. Et il pose pas la question de savoir si on va le garder ou pas le garder, ou où on en est de notre cheminement. Tout de suite, c'était... alors, vous voyez, là, on voit le cœur. Alors, il bat. Donc, tout de suite, c'est un espèce de truc très culpabilisant. Où tu te dis, oh là là, il se passe plein de choses déjà. Enfin, et regardez, on voit ci, on voit ça. Alors que... concrètement, on ne voit pas grand-chose. Et surtout, il te dit « Vous avez déjà pris rendez-vous à la maternité, vous avez déjà une sage-femme qui vous suit. » Et juste, toi, tu étais venue pour savoir si réellement tu étais enceinte ou pas. Et dans ta tête, tu n'as pas du tout encore fait le cheminement à savoir si tu vas garder ou pas ce futur enfant ou en tout cas, pour le moment, cet embryon, quoi. Et du coup, on est ressorti de là très chamboulé en se disant « Mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que... on avait l'impression qu'on nous avait déjà décidé pour nous, alors que nous, dans notre tête, c'était pas du tout décidé, et on a mis encore une semaine ou deux avant de se dire oui, on se lance dans l'aventure. On avait besoin de ce laps de temps pour se dire c'est possible ou pas possible. Et là, on avait une espèce d'injonction qui nous disait ça y est, c'est fait. Enfin, vous avez même pas à vous poser la question.
Mais je pense que ce que tu racontes là, c'est ce qu'on va un peu voir dans toute cette émission. C'est de toute façon. Nous, on lutte pour avoir le choix à chaque étape de toute cette histoire, mais j'ai l'impression qu'on ne le laisse pas beaucoup, surtout à partir du moment où il y a cette question de la maternité qui rentre en jeu.
La maternité, et puis dès que l'appareil médical est en place, t'as vite du mal à avoir une prise sur ce qui se passe, même si tu t'imagines les choses. Et on vous propose du coup d'aller plus loin, de passer de la grossesse à l'accouchement, avec toujours nos interviewés qui nous racontent un peu leur accouchement.
Mon premier est né un peu en retard, donc on a été un peu stressés sur la fin. L'accouchement s'est du coup pas trop bien passé parce qu'on me l'a provoqué. Donc dans ces cas-là, les contractions font quand même très mal parce qu'on met un produit spécial dans une perfusion. Et donc ça a duré très longtemps, donc le bébé était fatigué. Et voilà, donc à la fin j'ai eu une épisio, enfin bon, c'était pas un très très bon moment, quoi, pour le premier en tout cas. Pour le deuxième, après ça a été beaucoup plus rapide, mais pour le premier, l'accouchement, pas un très bon souvenir. Enfin, j'avais fait les cours de préparation à l'accouchement dans la clinique où j'ai accouché, mais ils sont très terre à terre et ouais, j'étais pas assez préparée personnellement, je pense, psychologiquement en tout cas, à mieux maîtriser les choses par moi-même en fait. Le deuxième, très bien, comme une lettre à la poste, il est sorti tout seul en 40 minutes. Alors que le premier, ça avait mis 8 ou 10 heures. Super, le deuxième. Tout nickel. C'était pas la même sage-femme, et du coup, elle était plus humaine, plus... on arrivait mieux à communiquer quand même avec la deuxième.
Et du coup est arrivé l'accouchement, donc moi je prévoyais, dès le départ on a prévu un accouchement à domicile, on a pris contact avec des sages-femmes libérales qui faisaient des accouchements à domicile, qu'on fait tout en suivi de grossesse dès le départ. Alors du coup j'avais quand même fait une inscription à l'hosto pour pouvoir me rabattre en cas de besoin d'urgence pendant l'accouchement, ça c'est les sages-femmes qui me le demandaient et c'est quelque chose qui me rassurait aussi je pense de me dire que le médical avait un dossier quelque part si vraiment il y avait un problème, quoi. Et donc on était sur ce projet-là, mais moi je n'ai pas eu du tout de mise en travail, ni de contraction, ni rien du tout pendant la grossesse. Et puis est arrivée la date prévue de l'accouchement et puis rien, toujours rien. Du coup, bon, les sages-femmes se sont posées un peu questions. Je suis allée à l'hosto. Alors c'était n'importe quoi parce que personne n'était d'accord entre les dates des sages-femmes, les dates de l'hosto, les dates des échos. Personne n'avait la même date, ce qui pour le coup moi m'a quand même fortement arrangée puisque du coup ça m'a permis de prendre du temps. J'ai fait un déclenchement par acupuncture qui a marché. Je suis rentrée en travail quelques heures après, le travail s'est mis doucement en route, j'ai commencé à avoir des contractions, le col qui était pas du tout prêt s'est mis à se préparer, à s'avancer, à s'ouvrir, etc. Mais ça prenait du temps, quoi. Hein. J'ai eu 72 heures de contractions, alors tous les soirs j'allais à l'hosto parce que comme j'étais en retard... J'allais faire une écho à l'hosto et un monitoring pour être sûr que tout va bien. Et puis tous les soirs, l'hosto me disait que ça allait, je signais une décharge, je rentrais. Et au bout du quatrième jour, donc j'étais déjà depuis deux jours et demi en contraction, au bout du quatrième jour, le soir, ils m'ont fait « ben non, tu repartiras pas quoi ». Ça a été un peu difficile pour moi sur le coup d'accepter ça, mais bon, en même temps, j'ai mes sages-femmes qui se sont un peu positionnées aussi en disant « écoute, nous, ça devient difficile qu'on te soutienne parce que derrière, on est déjà en guerre avec l'hosto par nos méthodes, nos pratiques ». Donc ça risque de rajouter une couche pas évidente. Du coup, je suis restée à l'hosto ce soir-là. Ils m'ont installée dans une chambre. Je me suis mis en travail normalement. Et ça avançait plutôt bien. Alors comme j'étais en retard, il y avait une sage-femme qui passait toutes les demi-heures, qui m'installait un monitoring, qui me le laissait une demi-heure, qui me l'enlevait, qui repassait une demi-heure après. Ça a été ça pendant une paire d'heures. Et au bout d'un moment, on m'a dit « bon ben voilà, vous êtes à 6 cm, on vous passe en salle d'accouchement ». Donc ils m'ont fait rentrer dans la salle d'accouchement. Et dans la salle d'accouchement, en l'occurrence, il y avait trois portes. Bon, la table était en plein milieu. Hein. Et il y avait du passage. Du coup, j'ai pas réussi à rentrer dedans, quoi. C'est clair que, de toute façon, les contractions étaient continuées, mais n'étaient plus efficaces. Ça ouvrait plus rien. Je suis restée bloquée à 6 cm. Et comme Nayan était encore haut dans le ventre, ils ont décidé de percer la poche des os. Et là, ça a été chaotique. Parce que du moment où la poche des os s'est retrouvée vidée, moi, je supportais plus du tout les contractions. Nayan était mal positionné. Il avait son dos dans mon dos. Donc, du coup, j'avais des contractions hyper douloureuses dans les reins, quoi. Chose qui m'a un peu fâchée parce que jusqu'au dernier moment, Nayan se retournait dans mon ventre et que son père, en massant mon ventre, arrivait à le retourner. Et que ben personne n'a jugé bon à l'hosto de nous prévenir qu'il était dans mon dos. Au moment de l'écho, on ne nous l'a pas dit. Enfin bon, bref, personne ne nous a prévenu. Donc du coup, nous, on n'avait pas forcément réalisé ça. Alors que je pense qu'il y aurait pu avoir des possibilités pour le remettre dans la bonne position et que ça facilite déjà les choses, quoi. Et lui, du moment où j'ai eu des contractions violentes après avoir percé la poche des os, lui s'est mis à faire de la souffrance fœtale. Donc à partir de ce moment-là, ça a été ni une ni deux, on vous envoie au bloc. Donc ils m'ont préparé pour le bloc. Alors moi déjà ça a été un peu tout un monde qui s'écroule parce que je passais d'un accouchement à la maison tranquille au bloc opératoire, je m'étais pas du tout préparée à ça. Ça a été violent, en même temps j'avais une faim qui arrivait et je l'ai vécu comme un soulagement. J'étais crevée, je me disais ça y est ça va se finir mais ça va pas se finir comme je le souhaite, donc c'était hyper culpabilisant, enfin c'était vraiment pas évident quoi à vivre. Alors sur cet entrefait il y a quand même une chose avant, c'est que la sage-femme est passée et m'a posé la question telle qu'elle, de toute façon, vous êtes contre éventuellement une péridurale. Je fais, moi, je veux pas de péridurale, c'est clair et net, je ne veux pas de péridurale. Et derrière, quand j'ai récupéré le carnet de santé de Nayan, je me suis rendu compte que cette question-là était en fait la question, est-ce que vous voulez un déclenchement hormonal ? parce que pour un déclenchement hormonal, il faut obligatoirement une péridurale, parce que c'est des contractions qui sont extrêmement violentes. Et le fait que j'ai refusé une péridurale a automatiquement provoqué un refus du déclenchement hormonal qui aurait pu se faire par voie basse, sans qu'on m'ait posé clairement la question. Là, déjà, ça a été un truc qui m'a été difficile aussi sur le moment. Donc ça a été bon, envoyé au bloc. Au bloc, tout s'est super bien passé. Nayan était en super forme. Ça, il n'y avait vraiment pas de souci là-dessus. Par contre, la sage-femme qui le récupère au bloc me dit il y a des selles, le reste du liquide est teinté, il faut que je lui nettoie l'estomac par sonde. Au départ, moi, j'étais clairement contre. Bon, j'étais un peu paumée. Elle me dit voilà, faut nettoyer. Ok, allez-y, passez-lui une sonde. Et après, à la sortie de l'hosto, en récupérant le carnet de santé, je me suis rendu compte que la sonde pour l'estomac, elle s'est transformée en sonde pour l'estomac, pour les poumons, pour l'anus. Bon, après, c'est vrai que je me dis qu'ils ont quand même essayé d'être attentifs sur les demandes que j'ai plus ou moins formulées. Alan, il n'a pas eu de bain, il a été monté à son papa tout de suite, son papa était la première personne à le récupérer, c'est lui qui l'a habillé. Moi, ils m'ont remonté dans la chambre tout de suite, je l'ai pu le prendre au sein tout de suite aussi.
Déjà, moi, j'ai pas compris que j'allais accoucher. Donc, moi, je suis allée à la maternité parce qu'elle bougeait plus et j'étais inquiète. Et en fait, on m'a dit, vous êtes en plein travail. J'avais même pas pris ma valise. Enfin, j'avais rien compris. Moi, j'avais pas perdu les os et tout. Donc, j'avais pas. Donc, bon, ça, c'était plutôt cool du coup. Enfin, je m'étais fait un peu un monde de ça va être horrible, je vais mourir. Bon, et j'avais fait toute une partie du travail sans m'en rendre compte. Donc, ça, c'était cool. Tout le moment qu'a précédé la délivrance, ça s'est plutôt bien passé. Je rigolais. Enfin, bon, j'avais mal un peu avec les contractions, mais franchement, ça allait quoi. Et à un moment, j'ai commencé à pousser toute seule et à me rendre compte que mon corps prenait le dessus sur ma volonté. Ça m'a fait très, très peur. Je me suis sentie devenir animale. Enfin, tiens, une espèce de retour à ta condition de nature. Enfin, je sais pas, un truc bizarre quoi. Où c'est pas moi qui décidais de pousser, et ça m'a vachement fait peur, ça m'a fait mal. Et du coup, j'ai appelé les sages-femmes en disant je fais n'importe quoi, je veux la péridurale. Et donc je leur ai dit cette phrase-là, ça les a vachement fait rire. Et en fait, c'était beaucoup trop tard pour me la faire. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu peur, ça m'a fait mal. J'ai eu peur d'avoir l'impression que je contrôlais plus rien et tout. Bon, les paroles des sages-femmes m'ont vachement rassurée parce qu'elles me disaient « c'est normal ce que tu ressens ». Elles m'ont fait vachement de massages, elles sont montées sur la table avec moi. Enfin, tout ça, j'ai trouvé ça génial. Elles étaient vraiment hyper rassurantes. Là, tu ressens ça, c'est normal. Les contractions, ouais, ça me faisait vachement mal. Bon, ça allait assez vite, mais je me rappelle que j'avais tellement mal que je poussais des cris animaux, une espèce de truc horrible, et qu'entre les contractions, je faisais des blagues à Fred pour le rassurer sur le fait que c'était toujours moi et que j'étais pas une espèce de monstre, pour m'humaniser un peu entre les contractions. Et j'avais vraiment ce truc là de reprendre le dessus sur mon corps, par ma volonté, par ma personnalité. Enfin, moi, j'avais beaucoup de mal avec le fait que je me sentais plus du tout un esprit. Je me sentais que un corps en train d'accoucher, que j'avais aucun contrôle sur rien. Et à un moment, elles m'ont dit « Ouais, tu pousses encore un peu et la tête, elle va sortir. » Mais j'ai trouvé ça horrible parce que j'avais tellement mal que je me suis dit « Mais moi, je pousse plus. Enfin, je vais m'éclater le vagin. Je veux plus pousser, j'ai trop mal, je veux pas. » Et en fait, ce qui m'a décidé, c'est qu'on a commencé à plus entendre trop le battement du cœur de mon bébé. Là, je me suis dit « Allez, vas-y !» Et là, j'ai eu l'impression de comprendre comment être maman, ça allait être faire passer quelqu'un avant moi, quoi. Et que vraiment, j'avais l'impression de sacrifier ma fouf pour mon bébé, quoi. Et que donc, j'ai poussé, ça m'a fait trop mal. Après, j'ai trouvé très désagréable l'expulsion du placenta, ça m'a gonflé, qu'on vienne me remuer le bide et tout. Ensuite, on me l'a mis sur le ventre et j'ai, je crois, eu encore plus mal qu'on me recouse la petite déchirure que j'avais eue qu'en fait à accoucher, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça hyper désagréable, ça me fait vachement mal. Donc ça s'est passé comme ça. Et donc j'ai un peu fait ma warrior, genre je contrôle la situation, tout va bien, je fais des blagues, même pas mal. Et donc les sages-femmes étaient à fond, putain, bravo Juliette, c'était super, trop génial ce moment. Tu vas aller aux toilettes? Ouais, je vais aller aux toilettes, comme une grande et tout. Et j'ai un peu fait un malaise quand je me suis relevée.
Dans les cités, les bidonvilles, le pape bénit la pauvreté. Ça passe le temps, ça tient tranquille, ceux qui n'ont plus rien à becter. Et puis le très saint père a dit, faut faire des gosses, même ses repos. ils iront vite au paradis. De toute façon, ici, il n'y a pas de boulot. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Partout on crève, mais c'est une chance. Et puis, il faut bien se faire une raison. Au moins, ça limite les naissances. Sans cette damnée contraception. Bien sûr, les viols font une moyenne. Faut se résigner, surtout rien dire. Que naissent les gosses de la haine, pourvu qu'ils soient faits sans plaisir. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. On parle de vice et de péché, et on excise des gamines, pourvu qu'il y ait frigidité. On peut pas dire que ce soit un crime. Faut pas croire que ce soit de l'esclavage, puisqu'elles ont le droit de prier Dieu. Dans les liens sacrés du mariage, si ça fait mal, qu'elles ferment les yeux. Dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Faire des mômes, c'est pas un loisir. Faut que les mères pondent sans conviction. Mais si elles peuvent pas les nourrir, c'est plus prévu par la religion. De toute façon, elles n'ont qu'à se laisser faire et se soumettre au testament. Se montrer dignes de leurs ovaires et se laisser engrosser sagement. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ceux qui ont de la moralité montent des gangs, des commandos, pour faire naître ceux qu'ils vont taxer. Plus tard d'être des enfants de salauds, les bien-pensants, les bonnes chrétiennes vont s'occuper de ces petites garces. Le temps qu'éclosent leurs mauvaises graines, qu'on oublie après à la DAS. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Ils se protègent sous leur tonsure et revendiquent leur petite calotte. Sans doute pour eux que c'est plus sûr que de nous laisser mettre des capotes. Pas la peine d'avoir son certif pour nous faire docilement gober. Satan et ses repositifs, comme tous ceux qui l'ont bien cherché. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Le seul virus qui soit bien vu, c'est l'église, c'est la religion. Fais gaffe à toi si tu l'as plu. On te pardonne mal ta guérison. Ces malades-là sont sanctifiés. Au ciel, y a plus de phase terminale. Et martyr, c'est bien mieux payé que travailler seul à l'hôpital. Oh, dis monsieur, qu'est-ce qui se passerait si la Sainte Vierge, elle avortait? Sans le paradis, ce serait peut-être mieux. S'il te plaît, fais-moi rêver un peu. Hey. Dis monsieur, je te crois pas. T'oublies qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Jamais la Vierge n'avortera. On la fête sainte, par faiseuse d'ange.
Bonsoir, alors vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope 97FM, c'est l'émission Dégenrée sur les joies de l'accouchement et comme vous l'avez vu, ça a l'air d'être une vraie joie. Alors on vient d'écouter une chanson d'Agnès Bill qui s'appelle l'enceinte Vierge, voilà. Alors, cette question de l'accouchement, ça m'a l'air d'être une partie bien difficile du processus. Et ça m'a l'air de faire très mal, cette histoire.
Je pense qu'une fois de plus, ça dépend aussi du seuil de douleur de tout à chacune. Mais c'est vrai qu'à un moment, je pense que toutes, on a mal. J'ai entendu dire qu'il y avait des orgasmes, mais j'en ai rencontré aucune. Donc je reste sceptique là-dessus. Après, moi je trouve assez juste l'interview de Juliette quand elle dit qu'à un moment on est sur la fin, on est complètement possédé, quoi. On n'a plus rien au niveau. Enfin, on ne contrôle rien. L'esprit a plus de prise et on est happé par les contractions, par ce qui sort de nous au niveau du son et ce qui va sortir de nous juste après. Et du coup, c'est à la fois. Moi, j'ai trouvé que c'était un mélange entre quelque chose de douloureux et quelque chose de. Ça te transcende, quoi. Du coup, tu sais pas trop, en fait. Je crois qu'il y a des douleurs qui m'ont fait vraiment mal. Mais celle-là, je pouvais pas dire que ça me faisait mal. C'était autre chose. Par contre, quand on arrive à la dernière contraction et qu'il faut sortir la tête, là, ça fait vraiment mal. Après, ça va mieux, le reste du corps, mais la tête, ça fait mal.
Donc ça s'appelle la délivrance, mais on ne sait pas trop si on est vraiment délivré en fait. Hein.
Bah ouais, ça fait mal et puis surtout, enfin moi je l'ai vécu aussi comme ça, comme une peur horrible de m'ouvrir en deux, de complètement me déchirer et de mourir en fait et de du coup, oui, de pas savoir, ouais, d'imaginer plein de choses et de pas savoir ce qui va se passer et de pas savoir ce qui est en train de se passer parce que vraiment on voit pas vraiment quoi. Et puis moi en plus j'ai pris le parti de fermer les yeux donc je voyais vraiment pas ce qui se passait. Donc du coup ça se passe dans ton corps, ça va sortir de ton corps mais tu vois pas ce qui s'y passe et c'est d'ailleurs pour ça que ben souvent tu te retrouves, on t'a fait une épisio comme ça sans rien te dire, enfin il y a des petites choses qui se passent comme ça dans un laps de temps très court, ça peut être 5 minutes et on te dit ça y est c'est fini, mais dans le ça y est c'est fini, juste avant on t'a fait une épisio et dans une heure ou deux on va te dire on va vous recoudre, vous allez voir c'est une partie de plaisir, et en fait c'est encore pire que l'accouchement.
Bah, alors avant de parler d'épisio, qui m'a l'air quand même d'être une question vraiment importante, moi ces montages ils m'ont aussi fait me dire qu'en fait on a l'impression qu'on peut choisir la forme de son accouchement, qu'on va par exemple choisir d'accoucher à domicile ou qu'on va choisir d'accoucher de manière naturelle ou médicalisée avec une péridurale ou sans péridurale, enfin voilà. Et que j'ai l'impression que finalement, on ne choisit pas grand-chose dans cette histoire.
Oui, en France, ça ne se voit pas encore beaucoup, mais tu peux écrire ton projet d'accouchement où tu décides de choses que tu veux et que tu ne veux pas. Sauf que dans le concret, les hôpitaux, les cliniques, tout ça, elles ont tellement de protocoles pour se protéger d'éventuels procès et de choses comme ça, qu'ils te disent oui, mais une fois que ça arrive, d'une part, ça arrive jamais comme tu l'imagines, et du coup, ils prennent des décisions pour toi, et t'es dans un tel état que, de toute façon, tu dis oui, enfin, tu veux... on le voit bien dans l'interview, il y a une des filles qui souhaitait un accouchement à domicile, qui avait l'air prête à affronter quand même plein de choses et qui était très décidée, qui savait ce qu'elle voulait. Et concrètement, au bout d'un moment, autant d'heures, bon, j'ai pas vécu ça, mais j'imagine qu'autant d'heures de contraction, tout ça, t'as juste envie que ça s'arrête. Et que du coup, on te dit, bon, bah, on vous emmène au bloc opératoire, on vous fait une césarienne, même si c'est la dernière des choses que tu souhaites, ben, tu suis le truc parce que c'est des médecins, parce qu'il y a toujours cette idée qu'ils savent mieux que toi. Et que même si ça se passe dans ton corps, eh ben, c'est quand même eux qui savent ce qui est mieux et ce qui va marcher.
Après, par rapport à cette question-là de la médicalisation de l'accouchement à l'hôpital, j'ai aussi l'impression que quand on entend chaque femme qui raconte son accouchement, il y a plein de versions différentes et que ça dépend quand même beaucoup de la chance ou de la malchance qu'on a de tomber sur un bon service ou un mauvais service avec des sages-femmes qui... sont humaines, c'est ce qu'elle disait. Ma sage-femme était humaine. Et, alors, ça voudrait dire qu'il y en a qui sont inhumaines, c'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? Est-ce qu'on est entouré ou pas? Ou dans un couloir, dans un passage j'ai l'impression que tout ça n'est pas égal, en fait, selon là où on est. Et là, maintenant, je me dis, vu tout ce qui se dit sur les fermetures des petites maternités, ça m'a l'air de ne pas aller en s'améliorant, cette histoire.
Non. Après, en France, maintenant, il y a un nouveau critère où tu as une liste d'hôpitaux et de cliniques amis des enfants ou des parents, enfin, un truc comme ça. Il y a un intitulé un peu bizarre comme ça. Et où tu sais... que ces maternités réfléchissent un peu plus à l'accueil en fait de la femme sur comment elle peut avoir une pseudo prise sur son accouchement ou en tout cas être plus à l'écoute de ses demandes et de comment ça va se passer même si ça se passera jamais vraiment comme tu l'imagines. Et en effet, on le voit dans l'interview, il se trouve que Juliette, elle accouche au Lila, qui est un hôpital ou une clinique, je ne sais plus, mais qui est réputée pour en fait être vraiment à l'écoute, de réfléchir vraiment à l'accompagnement des femmes et à ce qu'elles ressentent et à les accompagner dans ce qu'elles ressentent. Tu vois, quand elle dit, elle m'expliquait ce qui se passait et du coup, j'avais moins peur, alors que la plupart du temps, juste on te dit pousser, c'est maintenant ou je sais pas, enfin des termes qui te sont pas familiers et qui du coup ne font que t'inquiéter, enfin moi en tout cas j'ai trouvé que ça m'inquiétait plus que ça ne me rassurait et pourtant j'étais dans un hôpital qui avait un peu réfléchi à la question, mais pareil, même dans ces hôpitaux je pense que tu peux tomber selon le jour sur une sage-femme qui sera plus ou moins humaine comme le dit une des femmes.
Et puis j'ai l'impression aussi, enfin, ce qui ressort du témoignage, c'est que quand elle dit c'est là qu'on se met à comprendre qu'on va faire passer quelqu'un d'autre avant soi, je me dis qu'en tant que féministe, tu vois, il y a quelque chose d'un peu bizarre là-dedans, faire passer quelqu'un avant l'intégrité de son propre corps, ça doit faire un peu étrange, non ?
C'est carrément étrange et... Mais ouais, je crois que t'es dépassée à ce moment-là par ça, par ce qui t'arrive, parce qu'il se met en place indépendamment de toi et qui pourtant est dans ton corps. Ton corps, il agit indépendamment de ta volonté, en effet. Et du coup, il y a cette conscience-là de se dire, là, je fais passer quelqu'un avant moi. Et oui, il y a cet enjeu de vie ou de mort et que du coup, à ce moment-là, tu te dis, faites en sorte que ça se passe bien et que ce bébé qui est maintenant un bébé, il sorte le mieux possible et qu'il souffre le moins possible. Parce que de toute façon, je suis dans un tel état où je souffre de quoi qu'il arrive, avec ou sans péridurale. On a moins mal, certes, mais voilà, la douleur annulée, je ne crois pas qu'elle existe. On n'accouche pas sans aucune douleur.
Ok. Alors, on n'accouche pas sans aucune douleur. Par contre, j'ai l'impression qu'on pourrait accoucher sans épisiotomie.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est l'épisiotomie ? Parce que peut-être que tout le monde ne sait pas exactement en quoi ça consiste.
Alors, apparemment, en France, depuis quelque temps, ils sont moins dans cette démarche de faire des épisiotomies, mais... Concrètement, je rencontre quand même beaucoup de femmes et moi qui avons vécu cette fameuse épisiotomie. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'en effet, il faut faire passer quand même un petit individu qui est quand même assez gros pour la taille de notre vagin, de notre... Enfin, et du coup, ce qui arrive, c'est que ça peut déchirer entre le sexe et l'anus. Ça peut se déchirer un peu et parfois, si c'est qu'un peu, c'est pas grave, on laisse que ça se déchire tout seul, enfin naturellement. Mais s'ils craignent que ça se déchire trop, que du coup ça provoque, je sais plus comment ils expliquent ça, mais que ça se referme mal, tout ça, ils préfèrent le faire eux-mêmes et du coup ils découpent entre l'anus et le sexe un tout petit peu, donc la zone du périnée, quoi. Et ça peut être ça peut faire genre 2 cm, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce niveau-là, il y a plusieurs couches de peau. Donc 2 cm, c'est sur 3 couches. Donc quand ils recousent derrière, ils recousent 3 couches. Donc c'est sans fin, ce truc. Au bout d'un moment, tu te dis, mais elle vient de me dire que ça faisait 2 cm et qu'il y avait genre 2-3 points. Sauf que tu sens l'aiguille qui rentre et le fil comme ça qui passe, tout ça. Parce que même avec une anesthésie, moi j'ai tout senti. Et à un moment, je me dis, mais ça va durer encore longtemps. Et c'est là qu'elle te dit, oui, mais il y a 3 couches à recoudre. Et donc, les 2-3 points, c'est 2-3 points à chaque couche. Donc, du coup, ça de peau. Et du coup, c'est juste horrible, quoi, comme sensation. En plus, tu vois pas ce qui est en train de se passer. Donc, tu t'imagines plein de choses. Et puis, comme tu sens en plus qu'on est en train de faire de la couture, c'est super désagréable. Et puis, juste, t'as envie qu'on te laisse tranquille. Tu viens d'accoucher, quoi. T'as pas envie, en plus, qu'on vienne te remuer là où, déjà, c'était pas super agréable, quoi. Tu te sentais tranquille et...
Alors, il y a des études qui montrent que en France, il y a... beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'épisiotomies qui sont pratiquées que dans d'autres pays européens, avec le même taux d'accouchement qui se passe bien, c'est-à-dire où à la fin, le bébé et la mère sont vivants et en bonne santé. Alors, ça veut dire quoi, ça ? C'est qu'en fait, ils le font sans forcément qu'il y ait vraiment de raison médicale de le faire ?
Ben, en tout cas, il décide, il décide vite et à la place des gens, puisque par exemple, moi, dans mon projet, je l'avais mis que je voulais surtout pas d'épisio. Et donc, je pense que ça aurait pu être avec d'autres sages-femmes qui auraient lu ce que j'avais écrit et elles auraient sans doute tenté d'autres méthodes, parce qu'en effet, c'est le dernier recours. Et ça veut dire que parfois, tu as encore le temps de proposer autre chose. Et qu'en France, on est dans un état où on se protège tout le temps, en fait. Les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, ils se protègent tout le temps sous plein de protocoles. Et du coup, l'épisio, c'est un peu ça.
Ils ont le scalpel facile, quoi.
Voilà. Oui, mais je pense qu'en Europe, tout le monde sait que la France a le scalpel facile.
Alors, peut-être qu'on va passer à la suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a accouché, on a l'impression que c'est fini, ça y est, on est délivré. Mais vous allez voir que c'est là que commence peut-être la partie la plus sympa.
Oui.
Ça fait quand même très mal, ouais. En plus, après, on a du mal à s'asseoir, il faut se laver à chaque fois qu'on va aux toilettes. Enfin, c'est vraiment très contraignant, désinfecter à chaque fois. Donc c'est vrai que c'est un épisode assez difficile. Quand on est déjà un peu désemparé avec un premier bébé, ça complique encore les choses, en fait. On a l'impression qu'on en a déjà pas assez pour le bébé, qu'on n'arrive à rien, c'est très dur. Donc après, on avait l'infirmière de la PMI qu'on pouvait aller voir toutes les semaines pour la pesée du bébé, puis en même temps discuter un petit peu. Et sinon, le seul personnel médical que j'ai vu plus tard, c'est une sage-femme pour les cours de rééducation, et elle était vraiment très bien. 2 mois et demi, c'est un peu court, ça c'est sûr, en France. Donc après, moi, j'avais mis un peu de congé à la suite, donc j'ai réussi à ne pas travailler pendant 4 mois à chaque fois pour les deux. Donc ça, c'est agréable, c'est même presque encore un peu court. On ne propose pas tellement, non, je trouve. Pour les cours de rééducation du périnée, j'ai même dû insister auprès du gynéco. Lui, il me disait que j'en avais pas besoin, que je pouvais très bien me rééduquer toute seule. Donc j'ai insisté pour avoir mes 10 séances. Et je pense que ça, faut vraiment insister pour en avoir, parce que c'est quand même bien agréable de pouvoir discuter avec quelqu'un d'extérieur qui soit ni une amie, ni un parent. Et voilà, on peut parler de choses très, très intimes en toute liberté. La convalescence, elle dure quoi ? 10 jours, 2 semaines peut-être, je crois, un truc comme ça à peu près. Après, les fils tombent et puis ça va mieux, quoi. Mais j'étais peut-être trop stressée, hein, mais pour les deux, j'avais toujours l'impression que j'aurais pas assez de lait, donc j'arrêtais pas de prendre des trucs de pharmacie, de l'homéopathie ou des espèces de granulés, je me rappelle plus comment ça s'appelle, qui sont censés aider la lactation, mais bon, je suis pas sûre que ce soit très utile, en fait.
Ouais.
C'est psychologique, quoi. On se dit, j'y arriverai pas, donc je prends des trucs pour m'aider, mais en fait, il vaudrait peut-être mieux se calmer et essayer de penser que tout va bien se passer. Et après, c'est vrai qu'il y a des choses dont on n'a pas envie de parler non plus toujours, donc je sais pas si on est dans une phase où justement on se replie un peu sur soi-même et sur son bébé. Donc oui, ça pas hésiter à se faire aider par une sage-femme pour parler de choses intimes, comme le problème pour les câlins, le problème éventuellement un peu d'incontinence qui peut arriver, surtout quand on a eu une épisio. Donc il faut faire de la rééducation du périnée avec un appareil qui n'est pas très agréable mais qui marche assez bien. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en parler. Ouais. Pour le deuxième, ça a été plus facile du coup, comme j'ai pas été découpée entre guillemets par l'épisio. Donc ça s'est remis quand même beaucoup plus vite. Mais bon, j'ai fait quand même un peu de rééducation aussi. Et ouais, tout a été mieux en fait pour le deuxième. J'étais moins stressée peut-être. On relativise, on se dit que par rapport au bébé en bonne santé et tout, les petits tracas qu'on a nous, c'est pas grand chose. Donc je me pose pas trop de questions sur moi-même, ouais, ça c'est sûr. Je vais de l'avant.
La nuit d'après, j'ai trouvé très bizarre d'avoir le ventre vide. Enfin, j'ai l'impression d'avoir tous mes intestins et mes boyaux qui se remettaient en place et qui avaient un grand vide. Donc ça m'a fait drôle. J'ai beaucoup saigné, comme j'imagine pas mal de femmes. Ça m'a un peu déplu, puis j'avais mal à mes points de suture. Là, j'avais 2 points de suture, moi ça m'a fait mal quand même un peu. Mais je voulais pas prendre de médicaments. J'avais pas très envie de me shooter aux médicaments. Mais comme toute ma maternité, je crois, moi j'ai beaucoup regardé ma petite fille en la reconnaissant pas. Ça m'a fait drôle de me dire
Moi, en fait, je la connais pas, quoi. Enfin, c'est quelqu'un que je connais pas, qui me ressemble pas. Et j'avais pas de sentiments et d'élan pour cet enfant parce que c'était le mien. Enfin, il n'y avait pas d'évidence. Ça m'a fait drôle et j'ai l'impression de m'être dit, bon, faut que je m'occupe d'elle parce que c'est moi sa maman. Enfin, de m'être dit, c'est moi sa référente, c'est mon odeur qu'elle connaît. Mais de pas du tout avoir cet élan. Je pense qu'on aurait pu m'échanger mon bébé, moi j'aurais pas su qu'on me l'avait échangé. Et du coup, j'ai passé toute la première nuit, elle a dormi avec moi, enfin, je l'ai mise avec moi dans le lit. Et j'ai pas dormi, je l'ai regardée toute la nuit. En trouvant que c'était un truc de ouf, quoi, et que c'était qui cette petite personne dans mon lit que je reconnaissais pas. J'ai pas beaucoup dormi et l'allaitement ça m'a beaucoup fatiguée. Enfin, la première tétée, j'ai trouvé ça génial, ça m'a trop fait rire. Quelle tête, c'était assez facile la mise au sein et tout. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça ouf quoi. Quelle tête mon sein, j'ai trouvé ça trop délirant, ça m'a vachement fait rire. Bon, après ça m'a un peu fatiguée, quelle tête 12 fois par jour. J'ai trouvé ça moins drôle assez vite. Et je voulais vite rentrer chez moi aussi, j'avais pas envie de rester à la maternité avec d'autres gens. Je sais pas si j'aurai un autre enfant parce que j'ai arrêté d'avoir des certitudes et je sais pas, enfin, peut-être j'en aurai pas, j'en sais rien. Mais ce que je redoute le plus si jamais j'en ai un autre, c'est l'après. C'est pas la grossesse, c'est pas l'accouchement, c'est l'après. Pour moi, l'après, c'était ma croix, quoi. Déjà parce que c'était un bébé de l'hiver, donc je pense que ça a rajouté au fait que j'ai trouvé que c'était glauque, parce qu'il faisait nuit, j'étais enfermée, je suis pas beaucoup sortie. Dès qu'elle quittait mes bras, elle pleurait, donc en fait, j'ai passé 6 mois avec ma fille dans mes bras. Je pouvais pas prendre ma douche, je pouvais pas manger, je pouvais rien faire, enfin... Moi, j'ai trouvé ça hyper dur. Incapable de retourner travailler. J'étais hyper fatiguée par l'allaitement. Je me sentais incapable. Et je sais pas, ouais, c'est pas une période... autant la grossesse, je me sentais hyper joyeuse. J'y repense avec beaucoup de plaisir. Autant l'après, pas du tout. Enfin, c'est une période que j'ai pas du tout envie de revivre, qui m'a pas du tout épanouie. Et mon corps, moi, j'ai mis, je sais pas, un an à retrouver mon corps d'avant. Je me trouvais pas belle. Je me trouvais ramollot de partout, je me trouvais... Enfin, moi, ça m'a vachement marqué, l'empreinte que ça laisse dans ton corps. Et j'ai l'impression que mon corps, il sera plus jamais comme avant. Que, voilà, j'ai les seins moins denses, que j'ai le bassin plus large, que... Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Le changement de mon corps et le sacrifice de mon corps pour avoir un enfant. Et la sexualité, j'en avais pas tellement envie... Après, j'étais fatiguée en plus, enfin, j'avais... Non, franchement, j'avais pas envie de faire l'amour, quoi. Je crois que j'ai eu envie de faire... Et je sais même pas si j'ai eu envie ou si je me suis raisonnée en me disant « Bon, maintenant, quand même, faut faire l'amour. » Au bout de 3-4 mois, quoi. Mais je me demande si je me suis pas un peu forcée, quand même. Hein. Que je pense, pendant tout l'allaitement, j'aurais été capable de pas faire l'amour... avec mon amoureux, que ça m'aurait pas manqué. Et puis qu'en plus, lui faisait partie de ces hommes, je sais pas combien ils sont sur Terre, mais a pas du tout trouvé merveilleux une femme enceinte, a pas trouvé du tout que c'est attirant. Et tout ce qui me rendait mère me rendait pas désirable. Le fait d'allaiter, le fait d'avoir un gros ventre, ça l'excitait pas du tout. Et je pense que lui aussi, il s'est un peu forcé. Enfin, qu'on s'est un peu forcé tous les deux pour se dire « Bon, allez, quand même, faut qu'on se retrouve parce que sinon, on va être capable de jamais se retrouver, quoi. » Mais que, ouais, lui, ça, c'était un peu compliqué pour lui de gérer que j'étais à la fois femme et maman. Et que du coup, moi, me sentir pas désirable faisait que j'avais pas non plus envie de faire l'amour. Enfin, il m'a pas trop non plus aidé à me ressentir sexy, désirable. Et il y a plein de choses épanouissantes dans la vie, à part le fait d'avoir des enfants. Mais que j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre humainement, quand même. Que ça m'a beaucoup, beaucoup apporté, et ça m'apporte encore beaucoup, d'avoir un enfant, de faire passer quelqu'un avant moi, que ça m'a apaisée, que ça m'a rendue plus tolérante sûrement, avec les gens, avec leur façon de faire, plus prendre conscience de on fait comme on peut, de... et qu'aussi ton enfant vraiment c'est quelqu'un et c'est pas à toi, et qu'il a sa personnalité déjà tout petit. Même après, que je mesurais pas non plus au niveau du temps, de l'énergie, de la fatigue, moi, le sacrifice que c'est pour moi. Et qu'en vrai, c'est un sacrifice. Enfin, que moi, je vais pas faire partie de celles qui disent que bah non, c'est super, c'est génial. De toute façon, c'est trop bien d'avoir un enfant et de le faire passer avant tout le monde. Non, moi, ça me coûte du temps, de l'énergie. Femme et épanouie, parce que je suis maman, hein, pas du tout. Que je me sens différente, ouais. je suis contente de le savoir, de l'avoir vécu. De... Après, j'ai l'impression que du coup, c'est pas sûr que je recommence. Maintenant que je le sais. Chouette et que moi, ça m'apporte par rapport à la femme que j'étais. Que ça me fait du bien, moi. Ça m'a fait un peu mûrir et grandir. Être plus indulgente avec ma maman aussi. Hyper choquée d'apprendre enceinte de 8 mois. Et que c'était trop tard, que je pouvais avoir une descente d'organes. Je me suis dit, mais pourquoi on me l'a jamais dit avant, c'est dégueulasse. Donc j'étais dégoûtée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs, en plus, on te dit pas avant. Et souvent, je réfléchis à ça, à comment on a envie que les femmes, elles continuent à procréer, quoi. On leur dit pas qu'elles vont avoir une descente d'organes, peut-être, qu'elles vont avoir les seins qui tombent. On leur dit pas que l'allaitement, c'est pas magique et que... qu'elles vont avoir mal au nichon, qu'elles vont en avoir marre de se réveiller tout le temps, que... Oui, je trouve qu'il y a un tabou et qu'il y a toutes ces images d'Épinal de la femme qui allait et que c'est trop beau et de la maman qui est trop épanouie et qu'en veut vite un deuxième. Et que la maman qui dit « moi, je sais pas si j'en veux un deuxième », elle parle un peu bizarre quand même. Et que peut-être c'est une mauvaise maman quand même. Et que c'est dur de s'élever contre ces tabous. Et que même moi, enceinte, quand je disais que j'avais l'impression d'avoir un alliette dans le ventre, que j'étais pas attachée à cet embryon, ça choquait vachement de gens que je dise que c'était un embryon, que j'étais pas attachée à mon enfant qui était dans mon corps, la chair de ma chair. Bien aussi qu'on parle de nous.
Assez dur parce que déjà j'étais très très loin de l'accouchement que j'avais prévu. J'étais très loin de la vision de comment j'allais devenir maman aussi, puisque moi je m'étais un peu mis dans le crâne la naissance de mon fils, ce sera ma naissance de maman. Et ben oui, mon fils est né, mais il n'y a pas eu d'accouchement, il n'y a pas eu cette étape là pour moi qui fait que je deviens maman. Et ça a été quelque chose d'hyper difficile pour moi, une épreuve qui est certes physiquement difficile, mais qui tourne sur quelque chose d'autre, parce que derrière, ben voilà, ta vie n'est plus la même, t'as un enfant dans les mains et c'est toi qui a fait sortir cet enfant. Et du coup c'est vrai que voilà, avec cette idée là je me suis retrouvée un peu chez moi dans ok, j'ai un enfant à la maison, je me sens pas du tout maman, complètement perdue de qui je pouvais être dans cette histoire là quoi. Alors j'ai eu de la chance parce que ayant eu un suivi de sage-femme libérale avant, elles ont fait le suivi post-natal et de Nayan et moi sur 10 jours. Donc ça a été quand même un sacré soutien pour moi, parce que ça a été des personnes à qui j'ai pu vraiment exprimer ces inquiétudes là quoi. Mais après ça a été, je pense que ça a été dur sur plusieurs mois. Ça a été dur sur vraiment plusieurs mois pour moi, parce que j'avais beaucoup de mal à trouver ma place de maman. Alors que l'allaitement, j'ai allaité mon fils pendant hyper longtemps, ça s'est super bien passé, il a eu un allaitement exclusif jusqu'à ses 7 mois. La relation avec Nayan se passait bien. J'ai eu un enfant en or qui, au bout de 3 jours, dormait 6 heures la nuit. Il y a plein de choses qui auraient pu faire que devenir maman soit facile, me retrouver moi soit facile. Et en fait, pas du tout. Alors déjà, il y a eu tout le côté, avec la césarienne, il y a eu tout le côté de la cicatrice que j'ai mis énormément de temps et à accepter, où j'ai eu vraiment beaucoup de mal à intégrer, quoi. Ça a été quelque chose pendant longtemps, c'était quelque chose, dès que je me retrouvais toute nue, je fondais en larmes devant cette cicatrice. C'était quelque chose que je vivais vraiment très mal. Et après, il y a tout le côté aussi, se retrouver en tant que femme, se retrouver en tant que personne, femme mais pas que, enfin ça a été très très long pour moi. On n'a jamais vraiment réussi à trouver nos places respectives avec le papa, on s'est séparés, Nayan était encore tout petit, il avait 5 mois. Moi j'étais barrée avant l'accouchement dans un idéal de maman que je démordais pas, et il y a plein de choses qui n'ont pas aidé. J'ai senti assez vite après l'accouchement que ça allait partir en cacahuète, et je me suis renseignée rapidement, j'ai appris qu'il y avait des, par exemple des cours de chant post-natal avec mon fils, à faire avec l'enfant, quoi. Une fois par semaine, je vais faire du chant postnatal, ça va me faire du bien, ça va être un moment pour moi. Je sors de la maison, parce que je sortais très peu, du coup, après l'accouchement, j'étais collée à mon fils tout le temps. Ça va aussi m'aider dans ma relation avec mon fils, ça va être d'autres mamans, ça va être d'autres personnes, ça va me faire du bien, quoi. Et quand j'ai élaboré ce projet-là, de mon côté, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas été aidée... par à l'époque le papa et ma belle-mère qui était restée un moment, qui m'a beaucoup aidée pour la maison, etc., mais qui était restée un moment à la maison, où les deux m'ont dit, mais enfin, tu vas quand même pas faire de la voiture à un bébé aussi petit. Et donc il y a plein de choses comme ça qui m'ont été renvoyées de, mais oui, je suis affreuse d'être une mère, de pouvoir avoir des idées pareilles en étant mère, parce que j'ai eu un entourage facilitant la volonté d'une relation proche avec son enfant, mais enfermante aussi dans un enfant. T'es à son écoute, t'es à son rythme, t'es tout tourné vers l'enfant, et du coup ça a été les premiers mois ont été des caps hyper difficiles pour moi, où j'avais perpétuellement en face de moi des miroirs, j'ai envie de ça, bah non, t'es maman, si tu peux pas quand même, n'exagère rien, ton enfant au milieu de tout ça, tu le mets où, t'y penses quand? Et donc ouais, ça a été après la séparation avec le papa, je pense que moi j'ai lâché prise avec cette image que je devais avoir de maman, et où du coup j'ai dû me reconstruire, enfin le cap de la séparation a fait que j'ai dû me reconstruire moi en tant que femme, non plus dans un couple. Et le fait de vivre ça m'a aussi permis de me détacher du côté maternel, non pas dans l'abandon ni quoi que ce soit, bien entendu, mais de faire, ok, j'ai aussi le droit de me préserver des moments, j'ai aussi le droit de lever le pied, de faire, ton fils, tu le laisses entre deux bonnes mains, tu le fais garder par une copine, par ta maman. Il est avec des personnes de confiance, c'est ça aussi être maman, quoi, c'est juste s'assurer de sa sécurité. Et à un moment, toi, être bien dans tes pompes, c'est aussi assurer la sécurité de ton gamin, quoi. Enfin, faut pas se leurrer, c'est une réalité aussi. Je pense qu'il y a des moments où ton enfant t'a beau l'aimer plus que tout au monde, tu te dis, ok, je me suis mis quand même une sacrée responsabilité sur le dos, et il y a des moments, cette responsabilité, elle fait peur, et on aimerait bien s'en dégager. Et c'est pas être mauvais parent, quoi, c'est juste à des moments dire, je passe le relais un petit temps, et je suis responsable parce qu'il est en sécurité, et moi, je vais vivre ma vie. Mais ça a été vraiment vers les 8-10 mois de mon fils que j'ai appris à vivre ça. C'est pas évident, parce que quand tu viens d'accoucher, quand on te demande ça va, c'est aussi beaucoup et ça va l'allaitement, ça se passe bien, comment tu vas toi en tant que maman. Quand on te demande comment tu vas toi, c'est toujours en tant que maman. Alors après, moi j'ai de la chance d'avoir autour de moi quelques amis qui ont eu des enfants qui sont à peine plus grands que le mien et qui ont été hyper importantes pour moi, parce que toute cette période où ça avait été très difficile, tous ces premiers mois, mes soupapes, elles étaient là, c'était dans ses amis qui avaient déjà eu des enfants, qui me disaient, viens, on le met à dormir, t'inquiète, on le met à la sieste normale, on va se boire un petit thé tranquille, on va papoter toutes les deux, de ton gosse si tu veux parler de ton gosse, mais d'autres choses aussi. Il y a plein de choses qui sont pas évidentes dans le rapport au corps, au niveau hormonal, il y a plein de choses qui sont ultra chamboulées aussi, qui sont pas évidentes. Puis c'est pas évident, parce que tu jongles entre deux choses, moi je pense que la relation avec le papa, elle a aussi beaucoup capoté là-dessus, parce que t'es vachement dans une bulle avec ton enfant, t'es vachement dans ce maternage. Y a pas que lui, quoi. Et en même temps, t'as pas de désir, t'es pas du tout. Enfin, moi, j'étais pas du tout tournée sur une envie de sexualité quelconque, quoi. On sentait plus propriétaire. C'était assez étrange. Et non pas que je m'en sentais dépossédée. C'est ça qui est paradoxal. Je suis pas une femme, je suis une mère. C'est pareil, c'est paradoxal. Je pense que je m'étais arrêtée à l'accouchement. Je m'étais jamais vraiment posé de questions après l'accouchement. Déjà parce que je pense qu'on est une société où le rôle et la place de maman, elle est prédéfinie, donc tu te poses pas de questions, c'est celui-là et point, quoi. Donc du coup, je ne m'étais pas posé de questions. Après, tu te le prends de plein fouet quand même. Et c'est vrai qu'effectivement, on a beau... on te parle du retour de couche, mais on te parle pas du tout, effectivement, de ces saignements tout de suite après l'accouchement. Et ça a été à l'hosto. Bah, pourquoi je saigne autant? Ah non, mais c'est rien. C'est juste au niveau de l'attache du cordon ombilical, ça cicatrise. Mais on parle très peu de la dépression postnatale. Alors, j'irais peut-être pas jusqu'à dire que j'ai fait une dépression postnatale, mais je pense que j'en étais vraiment pas loin. Et voilà, c'est quelque chose... C'est la dépression postnatale, c'est un baby blues, mais qui s'installe sur des mois et des mois. Je me suis retrouvée et je me suis découverte, les deux. Les deux, parce que j'ai découvert chez moi des facettes que je ne connaissais pas du tout. Je pense que je me suis découverte une sacrée force.
Donc là, on vient d'avoir un petit aperçu de ce que ça peut être le post-accouchement, post-partum. Et en effet, il y a les premières semaines, on va dire les deux premières semaines, où on enchaîne quand même pas mal de désagréments qu'on nous dit pas, qu'on apprend au fur et à mesure, notamment le fait qu'on va saigner pendant quelques semaines et pas juste une ou deux semaines, ça peut aller jusqu'à un mois, voire plus. Et pas qu'un peu, quoi. On se retrouve donc avec des serviettes hygiéniques taille plus, qu'on va avoir une montée de lait le deuxième ou troisième jour et que ça va faire très mal parce que, ouais, ça chauffe, quoi. On se retrouve avec des seins comme on n'a jamais eu et ça fait super mal. Suite à ça, on parlait de l'épisio, c'est pareil, ça prend du temps avant de guérir et il y a plein de soins à faire, c'est super désagréable, on n'arrive pas à s'asseoir correctement. Enfin, c'est des suites qui sont quand même compliquées et dont on ne nous parle pas et où en plus on n'est pas accompagné, quoi. On est un peu laissé, on nous dit juste voilà, faites comme ci, faites comme ça, et encore quand on nous le dit, parce qu'on ne nous donne pas des méthodes pour s'asseoir de façon à ce que ça fasse un peu moins mal. Enfin, plein de petits trucs comme ça qu'on pourrait avoir et qu'on nous dit pas, qu'on nous donne pas au niveau des billes pour aller mieux, quoi. Et puis, il y a ce qu'on appelle, en effet, toutes ces montées d'hormones et descentes d'hormones, parce que mine de rien, accoucher, ben, il y a, ça dépote, quoi. Et du coup, ça peut s'enchaîner ce qu'on appelle le baby blues, histoire que ce soit un peu glamour. Voilà, on se retrouve à dire « Ah, je vais bien, mais je pleure ». Et à pas trouver ses marques tout de suite, en fait. En tant que maman, mais en tant que femme, on est complètement paumé dans son corps, quoi. Et pour se retrouver dans ses baskets, ben, c'est un peu long. Et je pense que là, ce qu'on a entendu, ça exprime bien tout ce qu'on peut ressentir après et à quel point on est isolé et seul, même avec un entourage. Je vous laisse écouter encore une dernière petite interview sur le sujet et on revient juste après.
Moi, j'ai trouvé ça hyper rapide par rapport à, effectivement, comme on disait, pendant la grossesse, c'est peut-être un peu plus progressif les changements qu'il y a au niveau corporel et puis le temps qu'on met à intégrer certaines choses, certains changements, etc. etc. Là, après l'accouchement, c'est vrai que c'est super rapide, voire fulgurant. Et moi, j'ai trouvé ça dur, en fait, la brutalité, en fait, des changements qu'il peut y avoir après l'accouchement et des choses qu'il faut vivre et intégrer. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même ce rapport aussi au fait que Il y a moins de choses positives auxquelles se raccrocher au niveau sensation après l'accouchement, parce que en tout cas moi le souvenir que j'ai de ça et comment ça s'est inscrit dans mon histoire, c'est que c'est surtout douloureux et long et compliqué à gérer avec tout le reste qu'il y a à gérer à cette période-là qui est très remplie, qui est très forte émotionnellement et vraiment privilégiée par rapport à d'autres femmes qui vivent vraiment dans un isolement par rapport à cette période-là post-accouchement auxquelles on dit des choses un peu par bribes comme ça au fur et à mesure que ça leur arrive et qui ont un peu l'occasion de discuter avec par exemple des sages-femmes à l'hôpital ou quoi, mais qui, je pense, vivent quand même un certain isolement, parce que même moi, qui ai eu la chance de, à cette époque-là, vivre, par exemple, avec une copine qui avait vécu ça quelques mois avant, et du coup, d'avoir eu cette chance de, au quotidien, la chance d'avoir la possibilité de discuter de ça au fur et à mesure que ça m'arrivait avec cette copine-là et qui pouvait m'éclairer sur plein de trucs. Et malgré ça, malgré le fait que j'étais super bien entourée, et que j'avais posé toutes les questions possibles, je pense, vu que j'étais une stressée de l'accouchement et de tout ça, et que du coup j'avais beaucoup discuté aussi avec la sage-femme qui m'a suivie. Malgré tout ça, malgré ces apports-là au quotidien, j'ai quand même trouvé ça difficile et je me suis sentie un peu perdue à des moments. Et je pense que c'est vraiment lié au fait... Enfin, c'est vraiment lié à des mécanismes, comme on disait tout à l'heure, de choses qu'on a malgré tout intégrées, qu'on reste quand même malgré tout seul face à des choses qui nous arrivent alors que on pourrait ne pas l'être, qu'on s'impose un silence à des moments qu'on ne devrait pas s'imposer ou que on ne fait pas de ces préoccupations-là autour de notre corps, des transformations, des choses qu'on vit, etc. Dans cette période-là, on ne fait pas de cette période-là une priorité. Enfin, on met pas une priorité au fait de porter attention, en particulier, à son rapport à son corps, à ce qu'on peut vivre de douloureux, et parce qu'on se laisse rattraper par tout le reste, en fait. Et c'est vrai que moi, avec le recul, je me dis, alors que je suis consciente de ces mécanismes-là, que je sais d'où ça vient, que je sais à quel point on est construite en fait à vivre tout ça de cette manière-là, et ben même si à plein de niveaux j'ai pu vivre les choses différemment, et ben sur d'autres plans aussi j'ai vécu les choses de manière très classique entre guillemets. À savoir dans un certain isolement, dans un certain silence, en occultant pas mal de choses, en me disant « bon, oui, d'accord, là, j'ai mal, mais bon, ça va passer », un peu ces réflexes-là de mettre de côté un peu ce qu'on pourrait juger secondaire, alors que ça ne l'est pas. Dormir, faire des soins, qui auraient pu... aller dans le sens de me réapproprier plus ce corps-là à ce moment-là et avoir une idée plus claire des transformations qui s'étaient opérées et qui allaient encore s'opérer, j'aurais pu prendre beaucoup plus de temps et j'en avais conscience, et pour autant j'ai pas mis beaucoup de choses en place, j'ai pas été volontaire en fait dans le fait de prendre du temps pour ça, alors que je sais parfaitement d'où ça vient et quels sont les mécanismes qui expliquent ça. C'est ça qui est terrible, c'est que là encore aussi il y a vraiment un rapport à la norme, au conditionnement et comment on se construit, parce que je crois pas que j'ai envie par exemple d'avoir une silhouette qui ressemblerait au modèle féminin idéal qu'on nous rabâche à longueur de pub ou à longueur de magazine.
N'empêche que j'avais quand même envie de retrouver le corps que j'avais avant, ne serait-ce que ça, hein, qui est un corps absolument pas parfait ou qui ressemble à ceux des magazines, mais qui en tout cas était le mien et que j'appréciais plus ou moins comme ça. Et que je vivais bien aussi physiquement en termes de sensations. Et là, j'avais vraiment une impression de changement radical. Et c'était pas que la douleur. C'est effectivement le regard que j'ai eu à ce moment-là et les sensations que j'ai eues au niveau de mon sexe que j'ai trouvé meurtri, alors que je pense... pourtant que j'ai pas subi d'épisiotomie par exemple comme d'autres femmes ont pu avoir, mais j'ai quand même eu des points au niveau du sexe après l'accouchement, et puis ce ventre là qu'on appelait flamby à l'époque. Alors on essayait de faire des blagues et de l'humour autour de ça, mais n'empêche que c'est pas un bon souvenir pour moi, ça. C'est des sensations corporelles qui étaient à la fois douloureuses et aussi désagréables, et un regard sur mon physique qui était négatif, où je me trouvais moche, je me trouvais flasque. Et il y avait vraiment cette sensation-là d'être un peu yaourt, un peu flan, quoi. Et ça, ça veut pas rien dire, parce que tu le ressens à chaque seconde, en fait, quand tu marches, quand tu t'allonges, quand tu fais des efforts physiques. Et tout te rappelle que t'es limité, que c'est une période où t'es limité physiquement. Tu peux pas porter facilement, tu peux pas marcher facilement. Je me souviens avoir mis pratiquement un mois et demi à retrouver une marche spontanée et facile. Bah, encore une fois, je pense que pour chacune c'est différent, et tant mieux. Mais en tout cas pour moi ça a été long, ça a été très 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 progressif, et moi j'ai eu besoin de d'abord moi retrouver une certaine envie de toucher mon corps, de le regarder et de me donner du plaisir par moi-même, par la masturbation ou ne serait-ce que par des caresses ou toucher mon sexe au fur et à mesure des semaines. Moi j'ai mis du temps à ne serait-ce que toucher mon sexe, mis à part pour les soins que je devais faire juste après l'accouchement. J'avais vraiment hyper peur, et puis ça me faisait mal, et j'avais peur de sentir à quel point il avait changé et à quel point il était douloureux. Donc déjà ça a été une première phase, et une fois que j'étais un peu plus à l'aise à le toucher, ne serait-ce que pour le nettoyer ou pour vérifier que tout allait bien, il y a eu cette deuxième phase de plus le toucher et de commencer à me recaresser et à de nouveau avoir des envies de sexualité, mais ça a été vraiment très progressif, et c'est vraiment d'abord passé par moi, quoi. Voilà, j'avais envie, un peu comme si je voulais moi d'abord maîtriser, et après, ok, je partage des caresses, je partage du sexe, mais quand moi déjà je me suis retrouvée, quoi. Voilà, mais ça a été vraiment long, et je pense que c'est pas encore terminé. Enfin, je pense que j'ai plus du tout le même rapport à la sexualité qu'avant. Ça se joue pas forcément en termes de fréquence ou d'envie, mais ça se joue en termes de quelle vision j'ai de mon propre corps et quelle emprise j'ai envie d'avoir dessus. Je crois que j'ai encore plus envie maintenant de moi maîtriser et de gérer, enfin, entre guillemets, quoi, que encore plus qu'avant. Je crois que j'ai un rapport assez ambigu, en fait, à ce sujet-là.
Vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope 97 FM, et c'est l'émission Dégenrée. Donc là, on vient d'entendre donc plusieurs interviews sur comment ça peut se passer après l'accouchement. Et ce qu'il en ressort, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de silence et beaucoup de solitude aussi, je trouve. On n'est pas... y a un post-accouchement, donc il y a un suivi au bout de 4 mois par une sage-femme pour une rééducation du périnée. Mais avant ça, il y a rien. Il y a une période comme ça de latence où ça mériterait un accompagnement et de réfléchir. Et je pense que c'est là où nous, les féministes, on pourrait réfléchir à comment accompagner ces copines qui sortent d'un accouchement, qui ont un rapport au corps difficile et où dans nos pratiques et dans nos écrits, dans tout ce qu'on réfléchit, et ben je pense qu'il y a vraiment une place. Le féminisme, il peut contribuer en tout cas à réfléchir et à être une voie pour nous de s'émanciper et de s'autonomiser à ce moment-là et de dissocier un peu cette parentalité qui arrive avec ce besoin de se retrouver, de se connaître, de se comprendre, d'apprendre à connaître son corps qui change, mais qui est toujours notre carcasse. Et ça, il y a un grand vide, en fait. Et je pense qu'il y a de la place pour faire des ateliers ou des espaces de parole. Ben, plein de choses qui seraient diverses et variées parce qu'on n'a pas toutes la même approche, parce que parfois on a besoin d'être un peu plus dans une démarche introspective ou individuelle, mais aussi à d'autres moments on a besoin d'être plus dans quelque chose de collectif, dans l'échange, dans l'écoute. Et aussi dans ce rapport au corps, on fait des ateliers en dehors de ces moments-là, parfois entre copines, d'auto, examen, gynéco. Et je pense que là, ce serait un bon moment pour faire ce genre d'atelier et pas que avec justement des femmes qui auraient accouché, mais des copines qui sont toujours là à d'autres moments et qui parfois trouvent pas leur place justement à ce moment-là pour accompagner pour, en tout cas moi je pense que ça m'aurait aidé mais c'est après coup que j'ai commencé à réfléchir et à tout ça et sur le moment j'ai pas forcément eu l'idée, mais c'est vrai que de moi-même j'aurais pas fait un examen gynécologique toute seule, par exemple. J'avais trop peur, en effet, comme on l'entend d'ailleurs sur cette dernière interview. Ça fait peur, on a un imaginaire qui se construit autour de ça.
Et puis aussi, j'ai l'impression que ce silence, il n'est pas là pour rien. C'est-à-dire que c'est aussi à nous peut-être de le briser, parce que ce silence, c'est ne pas dire que faire des enfants, ça coûte aussi au corps. C'est aussi une manière d'ancrer comme ça ces normes de la bonne mère, la mère qui va faire passer son enfant avant elle, de la mère qui va reprendre une sexualité après son accouchement, une fois que soi-disant elle est guérie. Mais on voit très bien, en fait, avec tous ces témoignages, que tout ça n'est pas du tout facile et évident, et que elles le disent bien, ça passe aussi par soi-même, en fait, par se redécouvrir soi-même.
Juste pour conclure, une dernière petite interview qui laisse un petit message que j'ai trouvé vraiment touchant et qui me parle particulièrement, et je trouve que c'est important de l'écouter et que toutes les copines l'écoutent, en fait.
Je crois que j'ai un rapport assez ambigu, en fait, à ce sujet-là, malgré le fait que j'ai sauté ce pas-là un peu de concrétiser mon envie de parentalité. Je suis quand même toujours un peu emmerdée, en fait, sur ça, parce que d'un côté, je suis convaincue qu'on peut vraiment continuer à creuser ces réflexions autour de qu'est-ce qu'on a à dire d'un point de vue féministe sur la maternité. Et en même temps, je partage aussi toutes les critiques qu'il peut y avoir sur la pression à la maternité, la pression qu'on vit en tant que femme et l'image qu'il peut y avoir autour de ça, le fait qu'il y ait des discours naturalistes
à tout bout de champ et en permanence sur le fait qu'on va se réaliser en tant que femme à travers la maternité ou à travers sa vie de famille ou je sais pas quoi, et que c'est des injonctions que je trouve hyper violentes et que j'ai envie de combattre. Et à la fois, j'ai aussi envie de combattre l'idée que la maternité ne serait qu'une expérience aliénante et antiféministe, parce que moi, j'ai pas envie qu'on me refuse mon droit à revendiquer un point de vue féministe de la maternité et du désir de parentalité, en fait. Et que ça, à des moments, c'est vraiment difficile d'avoir le droit à ça, d'avoir le droit d'exprimer ça, et sans être tout de suite jugée ou considérée comme une traître à la cause, un peu. Enfin, un truc où, genre, encore des femmes qui vont mettre de l'énergie dans ces réflexions-là autour de l'éducation ou de la maternité, alors qu'il y a d'autres combats à mener. Sauf que moi, je crois que c'est une vraie lutte en soi, parce que c'est aussi un phénomène social. Et que non, je crois pas que la maternité, ça soit qu'une expérience aliénante, ou la parentalité, ou je sais pas, ou ces aventures-là, et que... Je crois qu'on aurait vraiment beaucoup de choses à défendre, y compris sur ce terrain-là, et que je suis un peu triste des fois des combats idéologiques qu'il peut y avoir là-dessus, tout en même temps voulant continuer à combattre les normes ou les pressions qu'on peut subir aussi sur ce sujet-là, et qui nous enferme dans nos rôles prédestiné ou je sais pas quoi. I lost my heart.